Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la 21e émission et il est loin le temps des débuts où je vous présentais mon programme que j'ai finalement bien respecté. Et j'ai d'ailleurs plaisir à croire que, à condition évidemment d'avoir suffisamment mobilisé votre intérêt pendant ces quelques mois, que les connaissances générales sur l'art, théorie d'artiste, ponctuées de mes expériences et anecdotes, agrémentées elles-mêmes de mon petit grain de sel perso, vous ont apporté les éclairages suffisants pour déclencher chez vous des envies de connaître, de comprendre, voire expérimenter, jusqu'à ce qu'émergent de votre cerveau quelques éléments de réponse sur les questions essentielles du genre qu'est-ce que l'art, comment s'affirme-t-il et évolue-t-il, pourquoi et pour qui est-il nécessaire et donc qu'est-ce qui justifie sa légitimité et notamment celle de l'artiste dans un environnement social, quelle est sa réalité passée, présente, pourquoi certaines formes d'art actuelles sont plus ou moins bien représentées dans le paysage social et quelles sont-elles, etc. Alors évidemment, toutes ces questions concernent plus spécifiquement les arts plastiques avec la peinture, la sculpture, entre autres, même si des interactions ont été soulignées dépendant des sujets abordés au cours des émissions. En tout cas, je souhaite que ceux qui écoutent mes émissions ne se trouvent plus aussi démunis devant une œuvre, quelle qu'elle soit, et que mes interventions radio, si elles parviennent aux oreilles de certains, limiteront les sempiternelles objections que je rencontrais sur les lieux d'exposition, à savoir « l'art, je n'y comprends rien, je n'y connais rien ». Alors j'ai pris cette assertion au mot, à laquelle j'ai répondu comme si c'était de mon devoir d'artiste d'essayer au mieux, même modestement dans le vaste monde de la culture, d'aider ceux qui, intrigués, aimeraient comprendre et connaître, mais ne savent pas par quel bout y arriver. Alors je me veux rassurante car moi-même, parmi d'autres et notamment des artistes, malgré ma vocation ou mon immersion continuelle dans le monde de l'art, ma curiosité naturelle et mes efforts pour comprendre, je dois m'accrocher assez régulièrement pour y voir clair dans ces incroyables imbroglios générés par le monde artistique, surtout le monde contemporain. Donc, pour atteindre non pas l'inaccessible étoile de Don Quichotte, mais cet objectif plus terre à terre qui est de vous éclairer tant que faire se peut, j'ai planté jusqu'ici le décor général qui fait que l'art est ce qu'il est, défini comme tel, et vous ai présenté tous les courants artistiques depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant, en insistant sur la psychologie des artistes en interrelation avec celle de la société dans laquelle ils évoluaient, et j'ai donc mixé l'histoire de l'art avec l'histoire et l'état des sociétés, notamment occidentales. Alors, par rapport à tout cela, je vous ai familiarisé avec la pensée et les réflexions sur l'art d'artistes plus ou moins connus ou reconnus, celles de penseurs, d'intellectuels, voire des spiritualistes. Je vous ai donné des pistes, présenté des artistes dont la pensée ou le vécu sont marquants, décrit des œuvres, livré mes propres expériences d'amateur d'art et de sculpteur modeleur, présenter un état des lieux et je vous ai proposé de vous impliquer davantage en visitant les expositions, notamment ici à Périgueux et en Périgord, car l'expérience personnelle d'un être pensant et ressentant est un élément fondamental pour compléter l'initiation. Alors c'est bien pour ça que j'ai envie maintenant de revenir sur le rapport qu'entretient le public avec l'œuvre, parce que j'estime qu'il est important que le public, et donc la personne confrontée à une œuvre, ait le dernier mot, dans le sens où c'est à elle de décider de son rapport à l'œuvre, en dehors de toute influence extérieure, si érudite, initiée ou influente soit-elle. Alors, je ne parle pas ici de la qualité de l'œuvre, mais simplement du rapport à l'œuvre, ce qui n'exclut pas, bien au contraire, la volonté d'exigence qui implique évolution et perfectibilité personnelle, susceptible d'affûter le regard sur une œuvre pour lui reconnaître une certaine valeur. Car c'est cette attitude exigeante face à l'art ou par rapport à soi et au monde qui permet de s'ouvrir à des perspectives autres que celles imposées par ses propres limites. Alors, ceci dit, le rapport et la relation à l'art et à une œuvre dépendent de plusieurs facteurs qui seront aussi bien extérieurs qu'intérieurs. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'extérieur ? Il s'agit de l'extérieur à l'être lorsque la personne est confrontée au monde et à une somme d'informations dont il s'empare ou pas. Alors c'est là que je suis intervenue quand je vous ai présenté les différents courants artistiques au cours du temps, l'implication des artistes, leurs interactions avec la société, etc. Bref, c'est tout ce travail explicatif où j'ai montré du doigt des faits, des états, en essayant justement de ne pas trop laisser apparaître mes propres avis et impressions et donc mon monde intérieur. Aussi, j'espère que mes grains de sel personnels ont été répandus avec suffisamment de parcimonie pour donner de la saveur, mais sans dénaturer le véritable goût apporté par les ingrédients principaux que sont la stricte narration de faits et d'états statifiés dans le temps. Donc, l'intériorité vous appartient. Vous avez compris que c'est votre monde intérieur avec vos réflexions, vos sentiments, sensations, émotions, teintées plus ou moins de votre subjectivité, elle-même dépendant de votre vécu et des influences que vous avez reçues, etc. Et cette part de vous, dans sa dimension physique, psychologique, intellectuelle et spirituelle, intervient dans les interactions que vous avez avec le monde et que vous pouvez entretenir avec l'œuvre d'art, et cela vous appartient. Alors pourquoi ? Eh bien, je l'ai dit, parce que l'art est affaire humaine, l'art part de l'humain pour revenir à l'humain. L'art est un langage, moyen d'expression, de communication humaine, et d'ailleurs dont le pouvoir, je vous l'ai un peu démontré, est plus important sur les êtres qu'il n'y paraît. Aussi par rapport à ce que je viens de dire, l'œuvre est lien entre vous et l'autre, cet autre qui vous ressemble ou vous est étranger. Il est lié à vous-même, du plus trivial au plus élevé. Alors vous, l'œuvre, l'artiste qui l'a créé, la société dans laquelle vous évoluez, sont en interaction, et ça l'est parce que notre spécificité humaine s'engage, car elle passe par la créativité. Ce qui me fait dire que l'être humain est créateur et que c'est sa spécificité. Alors, dans certaines des émissions précédentes, j'ai abordé l'art sous l'aspect que je cite maintenant. Je vous disais que l'art est le moyen d'une rencontre. L'œuvre invite à la relation. Celle-ci se réalise ou non et se fait à des niveaux différents, dépendant à la fois de l'œuvre et de celui qui la regarde, parce qu'il le fait plus ou moins objectivement ou subjectivement. Cependant, votre attitude, votre posture est importante lorsque vous vous trouvez devant une ou des œuvres. Et si vous voulez tant soit peu recueillir le message, qu'il vous plaise ou non, il vous faut être en état d'ouverture et de réceptivité, autant à l'œuvre que peut-être à vous-même. Aussi, si vous êtes énervé, pressé ou préoccupé, je ne vous conseille pas de visiter les expositions et de voir des œuvres d'art. Alors, passer ce premier pas, vous risquez devant une œuvre d'être soumis à une première impression qui pourra être positive ou négative et entraînera des réactions épidermiques d'adhésion ou de rejet, par exemple. Alors, je vous conseille quand même d'essayer de dépasser cette émotion primaire pour vous exercer un autre regard plus pointu et accéder, si possible, à une autre appropriation de l'objet. Car c'est dans cette promiscuité de vous à l'œuvre qu'il faut vous laisser prendre d'abord pour qu'ensuite vous réussissiez à saisir vous-même. Et lorsque c'est fait, eh bien, il n'est pas rare qu'une question prépondérante s'impose, puisque c'est dans l'ordre des choses. Est-ce que je veux de cette relation? Alors, c'est ce qui peut se passer avec des personnes avec qui vous êtes mis en relation pour X raisons. On peut toujours aller voir un peu plus près à qui on a affaire et ainsi se rendre compte que la relation pourrait devenir agréable, difficile, conflictuelle, voire toxique. Bon, le conflit n'est pas toujours négatif s'il ouvre à une ouverture de conscience de part et d'autre. Par contre, la toxicité veut bien dire ce qu'elle veut dire, et certaines œuvres d'art, elles aussi, entraînent une certaine toxicité et sont peut-être à éviter. Alors, suite à ce premier contact où vous avez dépassé les réactions épidermiques et appréhender l'œuvre d'une manière peut-être plus objective, d'autres questionnements s'imposeront peut-être, et en effet, du genre « cette relation est-elle bonne, insipide ou mauvaise pour moi ? M'apporte-t-elle quelque chose de nouveau, une autre façon de voir et d'envisager le monde, ou mon rapport au monde, ou bien non ? Rien de nouveau sous le soleil ? Déclenche-t-elle toujours un bien-être ou un mal-être en moi ? Et pourquoi ? À quoi me renvoie-t-elle, que j'ai ou non le courage de regarder en face? Et quelle dimension de l'être touche-t-elle? Me permet-elle d'accéder à plus grand que moi, ou me ramène-t-elle à une banalité ou trivialité? Et peut-être aussi, qu'est-ce que je préfère? Bon, à partir de processus intérieurs qui s'effectueront de manière plus ou moins inconsciente, vous serez amené à les conscientiser pour apporter vos réponses. Et vous serez amené à juger l'œuvre de toute façon en fonction du rapport que vous aurez développé avec elle. Alors certaines seront peut-être capables de vous dépasser, de vous transporter en vous ravissant ou en vous émerveillant. Et alors qu'y a-t-il à répondre à cela ? En tout cas, sur toutes les questions qui s'imposent, seul vous pouvez répondre et c'est votre liberté. Alors certaines œuvres imposent des réflexions sur ce qu'elles révèlent de la société en positif ou négatif et sur ce qu'elles apportent en plus-value ou en moins-value sur la collectivité hors paramètres mercantiles et financiers. Alors on peut se poser aussi la question de leurs influences, sont-elles susceptibles d'être positives ou négatives? Alors la question qui inclut le collectif n'est pas anodine. L'état de l'art en général ne reflète-t-il pas d'une certaine manière l'état des sociétés? Alors c'est une question qui en dehors de l'aspect personnel peut être posée, car la réponse peut être aussi lourde de conséquences. Et l'art, dans ce cas, ne peut-il pas pervertir comme élever les êtres et donc une communauté? Mais revenons au rapport intime et particulier qu'entretient une personne avec une œuvre. Bon, je vais quand même dire ce que je pense au nom de la liberté que chacun est en droit d'exercer en matière d'art. Et c'est ce que je disais d'ailleurs sur les lieux d'exposition et aussi par rapport à mes propres créations. À ces moments, mon but était surtout de détendre la personne qui venait vers moi en créant un climat de confiance afin qu'elle puisse s'écouter avant de m'écouter moi. Je savais aussi que ce que je proposais était accessible à une personne normalement constituée de sensations et de sensibilité. Aussi, j'espérais accompagner cette personne à s'ouvrir à elle-même avant de pouvoir se confronter à l'œuvre, ce qui est dans la logique du processus. Alors pour la mettre à l'aise, j'adaptais mon discours et je lui disais grosso modo qu'elle était libre d'aimer ou de ne pas aimer, de dire qu'une œuvre la touche ou ne la touche pas, qu'elle l'émeut ou la laisse insensible, que c'était son droit. Moi, je savais où j'en étais, ce que j'avais fait, et quand on prend le risque de s'exposer, eh bien, on prend aussi le risque de recevoir des avis et des critiques positives ou négatives. Alors, si les réflexions sont sincères, je les accepte. Par contre, c'est vrai que la malveillance peut trouver terrain propice à expression, et dans ce cas, aucun intérêt, et c'est à moi de me débrouiller pour faire le ménage. Donc, je disais, vous êtes libre, dites-moi ce que vous avez à dire, si vous en avez envie, expliquez si vous pouvez. Moi, artiste, je dois être capable d'accepter. La seule chose qui m'importe, c'est que vous soyez sincère, parce que si vous l'êtes avec moi, c'est que vous l'êtes avec vous-même, c'est le principal pour vous, et c'est intéressant pour moi qui vous écoute par rapport à ce qui se dégage de ma création. Donc voilà en gros ce que j'essayais de transmettre. Et je pense en effet qu'une personne a le droit d'être touchée ou repoussée, d'être convaincue et séduite, ou dubitative et indifférente, etc., en dehors de toute influence extérieure. Bon, il est vrai que ce qui m'intéressait dans ce rapport à personne, c'est-à-dire entre l'artiste et celui qui regarde, c'était d'amener les gens à s'exprimer pour réussir à me débarrasser et les débarrasser tant soit peu de la sempiternelle objection qui m'agaçait quand même, à savoir l'art, je n'y comprends rien, je n'y connais rien. Alors, les œuvres plastiques sont des œuvres qui se regardent et en général, elles sont plus ou moins éloquentes par le seul fait qu'elles se montrent et que l'on peut les regarder. Alors, certaines œuvres le sont plus que d'autres lorsqu'elles s'adressent chez une personne à son intégrité humaine, parce qu'il y a une dimension humaine chez l'autre susceptible d'être touchée, ce qui replace d'ailleurs le concept et l'idée à un niveau plus modeste. Alors, ces œuvres sont intéressantes pour s'affranchir ainsi de l'emprise et de la prééminence de l'artiste, ainsi que de son discours justificatif, puisque l'œuvre existe par elle-même et résonne chez l'autre, à condition bien sûr que celui-ci soit disponible, mais aussi que l'œuvre ait quelque chose à dire. Car la réalité de ces œuvres révélatrices d'un message, c'est qu'elles laissent place Elle laisse la place à celui qui regarde de s'exprimer en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent et de ce qu'il est. Alors, par rapport à la subjectivité de celui qui regarde, il y a un dicton, bon, je ne sais plus vraiment de qui, mais qui dit que c'est celui qui regarde qui fait que l'objet qui est regardé. Et bien sûr, la subjectivité de chacun teinte de ses particularités l'objet observé. Cependant, et j'ai pu m'en rendre compte par expérience, dans le cadre d'expositions avec mes propres créations, qu'une adéquation, une correspondance s'effectuait entre ce que j'avais plus ou moins consciemment projeté dans la forme et les discours des personnes interpellées par mes créations, ce qui veut dire qu'une œuvre sait être éloquente par elle-même. Maintenant, la personne a le droit d'aimer ou non, d'accepter ou pas ce qu'elle reçoit, je le répète. Alors l'un de mes rôles, du moins celui que je m'attribuais pour communiquer de manière ouverte et féconde avec une personne, c'était de la sortir de ses certitudes négatives à son sujet, comme si l'art était réservé à une élite, ce qui entraînait même parfois une dévaluation de sa personne, comme si elle était incapable de voir, de ressentir et de s'exprimer toute seule face à une œuvre plastique. Alors, ce qui est possible par rapport à certaines formes d'expression. Vous êtes totalement désarçonné face à la pauvreté plastique et j'ai expliqué le pourquoi dans les émissions précédentes et c'est là qu'il faut un minimum d'éducation à l'art et aux différents courants artistiques pour comprendre. Donc l'exemple de cas extrême d'œuvres énigmatiques, voire rébarbatives, pour tout être normalement constitué en sensation et en sensibilité, c'est le conceptuel qui s'accommode d'objets tirés du quotidien, sans aucune transformation et disposé au gré des fantaisies cérébrales de l'artiste. Par exemple, et je l'ai vu dans je ne sais quelle grande exposition internationale, un tas de gravats dans un coin de salle. Il est évident que là, si vous n'avez pas d'explication, vous ne pouvez pas comprendre. Maintenant, après explication, l'acceptation de l'œuvre vous appartient et c'est l'objet de cette émission puisque la relation que vous entretenez avec l'œuvre vous est personnelle. Alors, pour comprendre la démarche des conceptuels, je vous invite à écouter les émissions précédentes sur l'art contemporain, et notamment conceptuel, art qui a émergé au XXIe siècle, au XXe siècle, dans les années 70, et est toujours reconnu comme prééminent par rapport aux autres. Alors, dans ces cas, l'artiste peut devenir le centre d'intérêt au-delà de son œuvre. Et pour recevoir votre adhésion, il accompagne l'œuvre d'un discours et aussi souvent d'un décorum impressionnant destiné à vous faire comprendre que l'affaire est sérieuse. Bon, le pire étant lorsque le discours est aussi incompréhensible que l'œuvre présentée. Ce sont des cas extrêmes, je le reconnais, mais qui existent néanmoins et qui ont déjà mobilisé plus souvent qu'à leur tour l'implication zélée des institutions avec des moyens financiers importants. Bon, c'est aussi pour cela que souvent et pour certaines formes d'expression plastique, un guide nommé médiateur artistique vous accompagne. Et il est souvent très utile pour vous expliquer la démarche artistique afin que mentalement vous compreniez ce qui est difficile d'appréhender par vous-même parce que le rendu est particulier. Alors le médiateur artistique est utile surtout par rapport à l'art dit moderne, contemporain et surtout conceptuel, cet art de l'idée qui néglige l'objet au profit du processus intellectuel qui le produit et où vous avez besoin d'un décodeur, même pour des gens comme moi qui ont tendance à affûter leur curiosité un peu partout en mettant leur nez dans tout ce qu'ils trouvent d'insolite. Et dans certains cas, si vous ne rentrez pas dans les méandres du cerveau de celui qui a concocté son installation, vous ne comprendrez rien et peut-être serez-vous aussi rebuté d'emblée. Ce qui ne veut pas dire qu'après explication, vous ne le serez pas encore. Mais peut-être trouverez-vous aussi le concept intéressant ou même génial, qui sait ? C'est possible, parce que tout est possible et moi je ne m'étonne plus de rien. Bon, c'est comme pour un tableau peint avec des outils et matériaux dans un esprit plus traditionnel, vous trouverez un intérêt ou pas. Certains tableaux n'ont aucun relief, aucun intérêt pictural ou informatif. Ils sont vides de sens et sans âme, ils ne touchent pas et n'émettent rien, comme certaines sculptures d'ailleurs. Même si vous vous trouvez en bonne condition de réceptivité avec les outils nécessaires. Si l'œuvre est fade et ne dégage rien, c'est que l'émetteur n'est pas performant. Car ce n'est pas tout de tenir un pinceau et manier les couleurs ou travailler le volume. De même, ce n'est pas parce que vous êtes un artiste conceptuel que vos idées sont nulles ou que vos installations sont dénuées d'intérêt. Mais là, nous touchons à l'aspect qualitatif de l'œuvre. Et pour nous en préoccuper, nous devons nous préoccuper de nous-mêmes et de notre monde intérieur. Est-il suffisamment riche lui-même pour provoquer un contact pour une relation qui pourra être de qualité ? De toute façon, dans la relation artistique, vous avez prioritairement d'un côté un émetteur qui est l'œuvre et de l'autre côté un récepteur qui est vous-même. L'intérêt est qu'un lien se crée pour une relation nourrissante, c'est-à-dire qui vous satisfasse et vous amène quelque chose de plus. Et une relation se fait à tout niveau, elle peut être sympathique, amusante ou éclairante ou anodine et décevante. Alors il est évident, je pense, que la qualité de la relation dépend de la qualité de l'œuvre en écho avec ce que l'observateur y met de lui et de ses exigences, même s'il projette quelque chose de subjectif comme un état d'âme ou des goûts personnels. Quoi qu'il en soit, la relation restera unique, non seulement parce que l'œuvre devrait l'être, mais parce que la personne qui la regarde l'est forcément, de par sa nature humaine. Bon, je reconnais là que je vais peut-être un petit peu loin avec un débat qui devient philosophique, mais rien ne vous empêche d'y réfléchir. Alors, revenons à mon attitude sur les expositions avec un art plus intégral, on va dire ça. Et pour que quelque chose se passe, eh bien, j'essayais de m'adapter en mettant la personne à l'aise et en confiance et en la rassurant sur le fait que ce qu'elle dirait ne me dérangeait pas, au contraire, que je comptais sur elle, etc. Enfin bref, je trouvais les mots. Et une fois tranquillisée, eh bien, je la poussais gentiment devant l'œuvre pour qu'elle l'appréhende avec déjà son premier sens, la vue. Et je commençais en général, ben, que voyez-vous ? Et petit à petit, par petits coups, je l'encourageais à parler. Alors elle me décrivait ce qu'elle voyait, puis ensuite de la vue, elle passait au ressenti, aux impressions positives, négatives, du j'aime ou j'aime pas, du pourquoi j'aime ou pourquoi j'aime pas, etc. Et au bout d'un moment, eh ben, j'avais une critique conséquente et plus parfois quand se révélait en elle quelque chose dont elle venait de prendre conscience. Et là, ben, je pouvais apporter un éclairage supplémentaire par la parole parce que l'essentiel était donné. D'ailleurs, souvent, nous terminions la conversation et je pouvais dire, et c'était sincère, eh ben, pour quelqu'un qui n'y comprend rien et ne connaît rien à l'art, vous en avez dit quand même pas mal sur cette œuvre, sans compter que vous avez bien formulé avec vos mots ce que j'ai mis dans cette pièce. Alors, une chose importante concernant l'art et la relation que l'on peut entretenir avec l'œuvre que l'on regarde, et c'est ce que la plupart des gens oublient, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire appel à un connaisseur qui va leur dire s'ils doivent adhérer ou non à telle ou telle forme d'art. Ce dont nous avons besoin, c'est de connaissances, de comprendre comment s'articulent entre eux tous les éléments qui composent la scène et le monde artistique, et cela s'appelle l'éducation, ce que font, je suppose, les professeurs d'art plastique à l'école. Et de l'autre côté, eh bien, nous avons besoin de solliciter nos propres perceptions et pour cela, la pratique est nécessaire. Alors, quand je dis pratique, c'est d'une part visiter les musées, les expositions, se confronter aux œuvres, rencontrer les artistes et d'autre part, peut-être, en effet, se familiariser avec des médiums artistiques, apprendre si l'on veut des techniques, en tout cas stimuler sa créativité, car l'art déjà est un excellent vecteur de créativité et de développement de la personne. Alors là, c'est pas moi qui le dis, hein, je le dis parce que je le crois, mais c'est confirmé par des recherches de gens sérieux sur le sujet, tels que des scientifiques. Enfin, ça c'est un autre débat. Alors maintenant, nous arrivons au bout de cette émission. En résumé, ben, j'espère que mes explications ont été claires. Je vous ai livré d'une certaine manière mon point de vue qui s'appuie quand même sur l'expérience, car je n'affirme rien sans tester et pratiquer pour vérifier si cela fonctionne. Et comme cela est ma façon de faire en général, je l'applique d'autant plus si je dois discourir, voire proposer des règles que je m'applique à des tiers. Et donc au sujet de la relation que vous entretenez avec l'œuvre, je voulais vous transmettre mon expérience, à savoir que s'il est utile et nécessaire de connaître, comprendre, apprendre, ou plutôt apprendre pour comprendre et connaître, cela va mieux dans ce sens-là. Votre responsabilité intervient dans le sens où il vous incombe de cultiver votre petit monde intérieur. Expérimenter et vous confronter à l'œuvre est le premier pas que je vous conseille de faire si vous désirez vous acclimater aux œuvres d'art en prenant votre temps pour observer et laisser venir. Ce qui est nécessaire car le second pas consiste à dépasser les obstacles éventuels issus de cette première confrontation à l'œuvre qui naissent de ou naissent des réactions épidermiques issues entre autres d'une trop grande subjectivité ou d'un manque de connaissances. Et donc l'effort c'est d'aller voir un peu plus loin avant de tout jeter en bloc ou vous référer à un spécialiste détenteur de la vérité. En vous disant cela, j'essaye de vous éviter d'avoir à penser qu'il y a une vérité absolue détenue par des gourous initiés supérieurs aux autres ou que vous êtes un incapable. La vérité n'est jamais aussi manichéenne ou si vous préférez aussi extrémiste. Et je vous conseille, si l'art vous intéresse ou vous intrigue tant soit peu, de garder votre énergie pour forger vos outils et que ceci soit composé à la fois de vos connaissances et apprentissages, mais aussi de vos qualités de réceptivité et de sensibilité à entretenir et à développer. Ce qui veut dire qu'il vous sera peut-être aussi nécessaire pour comprendre de rechercher l'information utile, sachant que de tout ce que vous aurez récolté à l'extérieur et sollicité à l'intérieur, vous tirerez profit pour aller un peu plus loin dans la découverte de l'œuvre qui sera devant vous. Et selon les cas, les outils seront différents à adapter et à utiliser à bon escient, afin de tirer bénéfice de votre relation à l'œuvre, si bénéfice il y a. Alors pour vous faire l'œil, je vous invite entre autres à voir l'exposition Vivante Nature proposée par la Fondation MAG qui a lieu du 22 mai au 5 novembre 2017 et est située sur le magnifique site du château de Biron. Une bonne raison de sortie vous est donnée pour savourer la beauté des lieux et confronter la nature avec l'interprétation qu'en font les artistes tels que John Miró, Fernand Léger, Georges Braque, Vassili Kandinsky, Paul Rébérol, entre autres, et pour les plus connus. Bien, après toutes ces paroles que je vous laisse le soin de méditer si le cœur vous en dit, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était Christine Darboux à la Voix des Arts.